RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et on enchaîne avec la deuxième partie de cette émission, toujours en direct jusqu'à 11h. Le sport peut-il être vecteur du vivre ensemble pour les jeunes? C'est ce qui va nous intéresser avec nos invités et vos témoignages, comme chaque matin. Lutte contre les discriminations, mixité sociale, accepter la différence, de nombreuses valeurs sont partagées à travers le sport pour les jeunes. Alors, pensez-vous que l'éducation nationale, à travers l'éducation sportive, en fait assez pour apprendre le vivre ensemble aux jeunes? Est-ce que vous avez des exemples de vos enfants ou petits-enfants qui, grâce au sport, ont pu apprendre le vivre ensemble ou même la citoyenneté dans leur pays? On vous attend ce matin au 04 72 38 20 23, mais aussi par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis. Sur RCF.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Françoise Limanda, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté au dernier moment, je l'avoue, de participer à cette émission. Vous êtes membre du comité du Rhône pour la FSCF, la Fédération Sportive et Culturelle de France. Vous êtes également juge national de gymnastique féminine et vous faites partie de l'association Le Cran. C'est à Tassin, la 2001, pas très loin de Lyon. Avec nous également Samira Djouadi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF, vous êtes la cofondatrice de l'association Sport à Vie. Solidarité, respect, entraide, curiosité, personnalité et identité. Voilà quelques mots que l'on peut trouver sur le site internet sportavie.net. Vous pensez que c'est possible grâce au sport de réunir tous ces mots?
Tout à fait, complètement. C'est la magie du sport, ça. C'est très fédérateur et ça dépasse des fois notre étonnement sur ce qu'elle peut unir grâce justement à l'esprit du sport, à ses valeurs et tout ce qu'on peut imaginer.
Quel est l'objectif de cette association Sport à Vie?
Alors, l'objectif de l'association Sport à Vie, alors quand on a créé cette association, l'idée c'était pas de recréer un club parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a déjà plein de créer et d'organiser. Nous, l'idée de cette association, c'était de se dire on va créer Sport à Vie pour mobiliser ces jeunes issus des quartiers qui ont souvent la passion du sport, qui souvent sont des sujets sur lesquels ils sont incontournables, ils ont réponse à tout, etc. Et de leur dire, bah voilà, à travers le sport, en fait, pour nous, le sport, c'est vraiment le vecteur qui va nous permettre de les mobiliser pour les faire rêver, de leur dire que tout est possible quand on y met du sien, quand on devient acteur et non plus spectateur de soi-même. Et donc, c'est tout ce que va apporter justement Sport à Vie. C'est de faire rêver ces gamins pour que justement sur leur parcours d'étudiants, de collégiens, de lycéens, voire après demain de professionnels, ils puissent devenir acteurs parce que les valeurs du sport, elles dépassent la pratique du sport. Et c'est ça la magie de tout ça.
Sport à Vie, c'est une association créée à La Courneuve, en région parisienne. À qui s'adressent vraiment les actions de cette association? À quels jeunes?
Alors les jeunes qui s'adressent avec qui nous nous adressons, ce sont les jeunes qui sont issus des quartiers, qui sont souvent désabusés, qui sont souvent n'ont plus confiance en eux parce que le système leur renvoie souvent des choses négatives qui font qu'à un moment donné, ils pensent que parce qu'on vient d'un territoire de quartier, de banlieue, etc., en fait, on peut pas réussir. Et l'enjeu de Sport à Vie, c'est justement leur prouver tout l'inverse. De leur dire que le territoire n'a rien à voir avec la réussite. Maintenant, il ne faut pas se cacher les yeux. Hein. Il y a effectivement des vraies réalités dans ces quartiers, etc. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes issus de ces quartiers, aujourd'hui, ont réussi. Quoi. Aujourd'hui, ils se sont relevés de grandes difficultés, mais parce qu'ils y ont mis de la motivation, de la niaque, et ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, ils sont passés au-delà de leur fantasme de se dire bah, le système nous aime pas, on est dédié à l'échec, on est dédié à ne pas réussir. Et ça va être tout l'enjeu de Sport à Vie, de leur montrer tout le contraire par la mobilisation, par le travail collectif, par aussi leur redonner la confiance en soi. Souvent, on gratte juste un petit peu pour leur montrer qu'ils sont aussi intelligents que n'importe qui. Et après, la magie, elle opère toute seule.
Françoise Limanda, ça vous parle, tout ce que dit Samira Djouadi depuis tout à l'heure ?
Oh, complètement.
Oui.
Complètement et vraiment, je suis persuadée que par le sport, déjà on passionne les jeunes. Et à partir du moment où on a une passion, eh bien on s'en sort dans la vie. Enfin, tous les exemples que j'ai autour de moi, de jeunes qui avaient peut-être des difficultés et qui ont été passionnés par un sport, qui ont été en plus encadrés et encouragés par, bien évidemment, les entraîneurs, ont fait que ces jeunes ont réussi dans la vie. Ça, c'est une certitude. Et du coup, ça leur permet de rencontrer. Alors, nous, dans nos associations, on n'est pas dans le même système où on n'est pas forcément dans les quartiers. Donc, il y a un mélange de populations. Mais tous ces jeunes qui viennent de milieux soit défavorisés, soit pas forcément défavorisés, mais qui, dans leur vie, bon, traînassent un petit peu,
ouais.
Eh ben, le sport, quand ils sont bien encadrés et qu'on leur donne le goût du sport, eh ben, ces jeunes, ils s'en sortent. C'est une certitude.
Et comment on peut l'expliquer, ça? Que ça fonctionne? Le sport?
Bah, ça fonctionne parce qu'en fait, des jeunes qui n'ont pas de passion et qui ne font rien, qui traînent toute la journée, soit sur leur téléphone, soit malheureusement dans les allées, etc., ils savent pas quoi faire. S'ils sont passionnés, ils ont envie de se dépasser, ils ont envie de vivre avec les autres aussi. Ça aussi, c'est une certitude parce que du coup, ils sont plus seuls. Ils ont une même passion et ils ont l'envie de faire des choses ensemble.
Vous parliez, Samira Djouadi, tout à l'heure d'avoir la niaque. Ces jeunes qui se dépassent avec ces activités sportives, en effet, ça leur permet de se dépasser justement, c'est-à-dire d'aller plus loin dans leur vie.
Ah mais complètement, hein. Moi, j'ai des exemples très concrets parce que ça fait quand même 20 ans qu'on a créé Sport à Vie.
Oui.
Donc, on a toujours des contacts avec les premiers, c'est-à-dire ceux qu'on a emmenés en 2002 à Séoul pour la Coupe du Monde de football. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'ils retiennent. Et pourtant, on est parti sur un grand événement sportif, planétaire, etc. Ce qu'ils retiennent, c'est les cours de coréen que j'ai mis pendant un an parce qu'on partait en Corée, quoi. C'est ça qu'ils ont retenu en se disant « Mais tu te rends compte, tu avais tellement confiance en nous, en nous disant « Mais vous inquiétez pas, vous allez réussir, vous inquiétez pas, il suffit de d'être motivé, d'avoir confiance en vous. » Et les mêmes, aujourd'hui d'ailleurs, une qui me racontait ça il n'y a pas longtemps encore, qui est professeure aujourd'hui d'un établissement en banlieue, et qui me dit « Mais ça m'a marqué, mais ça m'a marqué à vie, parce que du coup je me suis dit « Si j'ai réussi à apprendre le coréen, mais en fait je suis capable de faire tout, quoi. »
Voilà, donc,
vous voyez ?
Oui. on vous écoute, hein, Samira Djouadi, de toute façon, dans cette émission. Françoise Limanda, quelle différence y a-t-il entre le sport et l'EPS ? Est-ce que c'est différent ?
Je saurais pas. L'EPS, c'est plutôt une appellation pour moi qu'on nommait quand j'étais jeune, l'éducation physique et sportive. Il y a le terme éducation, donc qui correspond tout à fait au sport, parce que le sport a aussi pour but d'éduquer nos jeunes, puisque les entraîneurs sont des éducateurs en première chose. Après, est-ce que je pourrais pas vous dire, là, vous me collez un peu, mais voilà. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure,
oui.
le sport en fait permet à ces jeunes d'être cadrés par le fait que je vois dans nos associations très souvent pour faire du sport, il faut déjà qu'ils aient bien travaillé à l'école, c'est-à-dire qu'ils se soient organisés. Donc ça leur permet aussi de s'organiser dans la vie. Et très souvent, si les parents disent « écoute, si t'as pas de bonnes notes, tu n'iras pas au sport », eh bien ces jeunes, aidés très souvent par leurs entraîneurs, parce qu'on voit très souvent des entraîneurs qui, avant l'entraînement, demandent aux enfants s'ils ont bien fait leurs devoirs, sinon tu passes une demi-heure dans le vestiaire à travailler, ces jeunes, ils évoluent dans le bon sens.
Et on va continuer d'en discuter tous ensemble avec nos deux invités ce matin et nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler, je vous le rappelle, au 04 72 38 20 23. Et vous pouvez également nous envoyer vos mails à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et je le rappelle avec nos deux invités, Françoise Limanda, vous êtes membre du comité du Rhône pour la FSCF, la Fédération Sportive et Culturelle de France, et puis Samira Djouadi, on vous connaît déjà bien sur RCF, on vous a reçu plusieurs fois, c'est toujours un plaisir, vous êtes la cofondatrice de l'association Sport à Vie. Un message de André de Bruxelles, les matchs de foot en local chez nous ont pu réconcilier les jeunes et des policiers. Voici un exemple positif d'initiative. Tout à fait, André. Merci. merci beaucoup pour ce témoignage. Samira Djouadi, ça peut réconcilier des populations qui ne se, les supportent pas, j'utilise ce mot, mais évidemment c'est une généralité.
Ah mais complètement, complètement. Je pense que moi alors c'est marrant parce que l'exemple que vient de citer cet auditeur, il y a à la même époque où je crée Sport à vie, je faisais la même chose avec les agents RATP à l'époque où il y avait beaucoup d'incivilité dans les bus. Les jeunes montaient dans les bus sans payer ou saccageaient, etc. Et on avait organisé des tournois de foot avec les agents RATP parce qu'en fait j'avais appris que beaucoup étaient arbitres en dehors de leur fonction de conducteur. Et donc, j'avais été voir la RATP en leur proposant ce projet, en disant, écoutez, on va essayer de monter un projet pour que ces jeunes-là comprennent que voilà, le conducteur, il est aussi dans le domaine du sport comme eux, il sait aussi faire autre chose que conduire son bus et qu'à un moment donné, c'est son lieu de travail, quoi. Et donc, toute cette sensibilité, on a réussi à le faire et surtout à le résoudre grâce au sport. Voilà. Et voilà, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très fort parce que on n'aurait pas imaginé qu'on aurait pu un jour les réconcilier parce que on comprenait pas d'abord l'utilité des saccagements qui étaient faits, etc. Et le sport a permis, en fait, de relier ces personnes-là, d'échanger entre eux, de discuter. Et puis, bizarrement, après ces années de tournois qu'on avait organisés, il n'y avait plus justement toutes ces incivilités qui étaient faites auprès de ces conducteurs de bus RATP.
Mais parce que ça les forme à la citoyenneté. Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser pour la citoyenneté? Est-ce que ça les forme au vivre ensemble quand on fait du sport?
Mais oui, parce que moi, j'ai fait du sport très, très longtemps. J'ai fait de l'athlétisme, à un bon niveau en plus. Mais on avait, en fait, c'était pour moi, j'ai toujours, quand j'étais grand, jeune et que j'ai grandi, pour moi, le sport, mon club, c'était ma deuxième famille. Hein. Souvent, je le disais, mon entraîneur, c'était comme mon père. Il y avait un respect total. Donc, on nous éduquait au final. Hein. On nous apprenait une hygiène de vie, à respecter l'autre, à respecter les horaires aussi. Hein. Quand on vient à l'entraînement, on ne vient pas avec 10 minutes de retard. On doit arriver à l'heure, on doit respecter les autres, etc. Donc, souvent, on voit uniquement l'image du sport, de la pratique unique. Mais en fait, il y a tout un environnement autour de ça qui fait qu'en fait, inconsciemment, on est éduqué à la citoyenneté, au respect de l'autre et puis aussi à la gagne et puis aussi au fait qu'on perd. Moi, combien de fois je suis arrivée à la place du quatrième du podium et à chaque fois, on ne s'en relève pas et puis le lendemain, il faut repartir à l'entraînement parce qu'il faut se relever parce qu'il y a une autre compétition 10 jours après. Et ben ça vous forge l'esprit. Ça vous forge l'esprit parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, c'est la vie et il faut apprendre à se relever. Et ça, on peut le dédupliquer après dans le milieu professionnel. Quand on perd un projet, quand on a une action qui fonctionne pas, etc. On sait se relever, on sait y mettre les choses positives qui font qu'à un moment donné, là ça n'a pas marché. Mais je repars, je rebondis. Mais ça, on l'apprend où ? On l'apprend dans le domaine du sport.
Samira, pardon, je vous coupe, hein, parce que nos auditeurs ont la parole et on va prendre le temps de les écouter. Tout comme Thérèse, qui habite dans le nord, tout proche de Lille, qui voudrait être rassurée, si j'ai bien compris. Bonjour Thérèse.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, moi j'écoute vos émissions et puis, je voudrais être rassurée. Mon petit-fils est complètement déscolarisé. Il fait de la phobie scolaire. Bon, je pense que tout ça est dû un peu au contexte familial. Je parle des parents. Et je voulais savoir parce que quand il veut plus du tout aller à l'école, seulement il aime le foot et il est parti pour faire entraîneur de foot. Pour moi, c'est pas un métier. Voilà.
Merci.
Alors, vous voulez être rassuré. Oui, vraiment. Ouais. Et puis en plus, il n'y a pas eu les. Moi, je trouve qu'il n'a pas eu les racines du savoir et de.
Les bases, les bases.
Hein,
les bases de l'éducation. Voilà, merci Thérèse pour votre appel ce matin au 04 72 38 20 23. Alors c'est un peu compliqué de faire du cas par cas. Par contre, je vous ai vu sourire, hein, Françoise Limanda, quand Thérèse a dit que ce n'était pas un métier, entraîneur de foot.
Ben, ça peut l'être peut-être. Ah, oui. Ça peut l'être peut-être, mais bon, il y a quand même beaucoup de clubs où ce ne sont que des bénévoles. Donc, par contre, effectivement, il faut sûrement apprendre les bases et se former vraiment pour être entraîneur de foot.
Mais c'est intéressant ce que disait Thérèse, c'est-à-dire que au moins son petit-fils a une passion.
Ah, mais ça c'est clair.
Et c'est le foot, c'est le sport.
C'est ce qui va lui permettre de s'en sortir. Après, peut-être pourra-t-il effectivement être entraîneur de foot bénévole, mais du coup, comme il sera bien dans sa peau en faisant sa passion, eh ben il pourra trouver peut-être un travail qui sera peut-être moins passionnant, mais qui du coup passera très bien parce que il sait que le soir, eh bien, il ira entraîner les jeunes.
Voilà. Alors, on garde espoir votre petit-fils, Thérèse. Et puis, je pense que voilà, entraîneur de foot, c'est un métier à part entière. Hein. Ouais. C'est difficile aussi d'encadrer des jeunes, mais comme quoi, c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition. Françoise Limanda, je vous ai présenté tout à l'heure comme juge national de gymnastique féminine.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, ça veut dire qu'on est présent aux compétitions pour évaluer les petites gyms qui se présentent devant nous, parce que dans une compétition, bien sûr, elles sont notées et il y a un classement.
Quel type de gym ?
Alors, c'est la gym artistique, c'est-à-dire les quatre agrès connus, la table de saut, la poutre, le sol et les barres asymétriques. Et dans notre fédération, on a la chance d'avoir une cinquième, on ne dit pas un agrès, ce n'en est pas un, ce sont les mouvements d'ensemble. Donc les mouvements d'ensemble, c'est ce qui permet justement de fédérer ces jeunes dans une équipe pour être tous ensemble. Alors c'est sur une musique donnée, ce sont des mouvements donnés et c'est noté. Et lors de nos manifestations nationales, on peut arriver à avoir 2000 gyms à peu près sur un stade qui en même temps... font ce mouvement d'ensemble. Et là, je peux vous dire que qui n'y a pas assisté ne peut pas imaginer ce que ça peut fédérer et ce que ça peut nous faire, nous, de voir tous ces jeunes. Donc vraiment, le sport par toutes ces activités, et entre autres nous, dans notre fédération, par ces mouvements d'ensemble, permet vraiment de relier toutes les équipes, toutes les gyms d'une même association dans ce faire ensemble. Faire ensemble, voilà.
Donc cette émission, aujourd'hui, je pense, donc J'agis, elle vous parle.
Ah, complètement.
Le vivre ensemble, c'est quelque chose que vous avez pu vraiment voir, constater, prouver avec ce que vous aviez fait en tant que juge.
Tout à fait, oui. En tant que juge, en tant que gym aussi, puisque j'ai été gym quand j'étais jeune également. Et vraiment, c'est ce qui m'a construit. Enfin, aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, je sais que c'est aussi par le sport, par la vie associative, hein, parce que le sport, c'est la vie associative, donc c'est le vivre ensemble obligatoirement. Et dans une association, eh bien, on retrouve toutes les échelles de la société. Et quand on est dans la vie associative, eh bien, il n'y a pas de différence.
Un message de Christine de Limoges. Je voudrais rendre hommage à tous ces entraîneurs du mercredi qui apprennent beaucoup de choses aux enfants au-delà du sport, souvent des bénévoles à la retraite extraordinaires. Ça vous parle, ça aussi?
Oui, ça aussi, ça me parle vraiment. Ça nous parle, et sans le bénévolat aujourd'hui, je pense que nos jeunes pourraient pas faire du sport comme ils en font aujourd'hui. Et on est un peu en souci justement dans la période actuelle parce que les associations sont bien mal en point à cause de cette crise, quoi.
Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être au contact de tous ces jeunes qui, comme vous le dites, sont fédérés par le sport? Qu'est-ce que personnellement ça vous apporte?
Ah ben moi, je ne pourrais pas vivre sans ce contact avec les jeunes. D'abord, ce sont mes rayons de soleil quand je les vois. En plus, on sent qu'il y a un échange et une confiance qui se passe entre les différentes générations. Mmh. Donc ça aussi, c'est vraiment important parce que même si quelquefois, ils nous regardent un petit peu avec les cheveux gris, mais ils sont bien contents de venir nous demander conseil ou qu'on soit là pour les aider, pour les accompagner, pour leur parler de notre histoire aussi. Donc effectivement, c'est vraiment le vivre ensemble, non seulement au niveau des milieux sociaux, mais aussi au niveau des générations. Et je rajouterais aussi, parce qu'on n'en a encore pas parlé aujourd'hui.
Oui, on a le temps, on a une heure.
Voilà, du handicap.
Ah ben oui, mais c'est prévu.
Bon, c'est prévu,
mais
d'accord.
Vous pouvez commencer à en parler si vous voulez.
Il n'est pas rare. Alors, il y a des associations de la Fédération sportive et culturelle de France qui ont carrément des sections handisport. Et puis, on trouve beaucoup, beaucoup dans nos associations des enfants qui ont des handicaps, soit moteurs, soit mentaux, qui sont intégrés dans ces groupes et qui, du coup, ça leur permet de vivre pleinement comme les autres, comme les autres enfants, avec des encadrants, avec des copains et des copines qui... voilà, donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose que l'on pousse dans nos associations.
Et ça permet aussi de changer de regard sur le handicap.
Ouais. Complètement, complètement. Et puis quand on voit le... Enfin, j'ai un exemple précis d'une petite jeune qui était venue comme gymnaste. Elle avait 17 ou 18 ans. Elle avait un handicap physique important. Et ça a été un petit peu difficile au début. Et puis, elle a été prise en charge par et les copines et les encadrants. Mmh. Et elle est même venue à la fin. Elle venait aider au niveau des jeunes, des petits. Donc, les petits... Ils n'avaient aucun a priori sur son handicap. Et si vous aviez pu voir comment elle a été heureuse pendant les années où elle était avec nous, c'était un vrai bonheur.
Voilà, pour une manière de changer de regard sur le handicap. Alors, Samira Djouadi nous a quittés. Je ne sais pas où elle est. On va essayer de la rappeler. Je rappelle que c'est la cofondatrice de l'association Sport à Vie. Et vous avez également la parole ce matin au 04 72 38 20 23, tout comme un auditeur. C'est André de Tours qui est avec nous. André, bonjour André. Je vous laisse juste
bonjour.
Couper votre radio derrière, André, comme ça, il n'y aura pas un écho.
C'est fait, je viens de couper.
Alors, voilà. On vous écoute.
Oui, pour les jeunes, c'est une formation, le sport, qui dure toute la vie. Je vais vous citer un exemple. C'est un homme qui est accablé de travail. Il s'agit de l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe. M. Édouard Philippe est un boxeur, et toutes les semaines, quel que soit son planning, il faisait à sa séance de sport. Enfin, il l'a fait encore maintenant, je présume. Là, il est un peu sorti des radars. Mais... Donc, voilà. Donc, il a pu supporter, parce que le travail d'un Premier ministre, dans notre Constitution, c'est un travail accablant. Donc, c'est une tension permanente, constante, la nuit, le jour, il n'y a pas d'arrêt. Il est vraiment au charbon tout le temps. Eh bien, il a toujours maintenu, malgré ça, sa séance de sport. De boxe, pardon. C'est un boxeur.
Voilà, le sport, c'est une formation pour la vie. Merci beaucoup, André, de nous avoir contacté ce matin. On parle du sport, vous l'avez compris, du sport chez les jeunes, d'ailleurs. Peut-il être moteur du vivre ensemble? Peut-on apprendre la citoyenneté, le vivre ensemble grâce au sport? On attend vos témoignages ce matin et vos expériences, surtout, au 04 72 38 20 23, mais aussi par mail à direct@rcf.fr. On va accueillir, j'espère, dans quelques instants, notre chroniqueuse du mardi, c'est Véronique Durand de La Vie. Et puis, on va écouter une chanson d'Indochine. Indochine qui ouvre sa billetterie aujourd'hui pour les 40 ans du groupe. Indochine sur RCF. C'était nos célébrations.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et nous avons retrouvé notre chroniqueuse du mardi. C'est vous, Véronique Durand. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à la vie. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior.
Pour ses 75 ans, l'hebdomadaire organise le prix Espérance, dont RCF est partenaire. Un prix qui récompensera le 12 novembre prochain à Paris, en présence de Natacha Saint-Pierre, qui est la marraine du prix. Les quatre initiatives les plus solidaires et les plus missionnaires de l'année, présentées dans les pages de votre magazine. Alors, cette première édition va bientôt toucher à sa fin, puisque désormais les votes des lecteurs et internautes sont clos. Et aujourd'hui, vous nous dévoilez les résultats de la cinquième phase de présélection. Alors, quelles sont les deux initiatives plébiscitées par les internautes dans la catégorie « Agir et croire » ?
Alors, tout d'abord, précisons-le, il s'agit de la cinquième et dernière phase de vote. Et deux très belles actions sont arrivées en tête. Je remercie chaleureusement les lecteurs et internautes qui se sont mobilisés fortement lors de cette dernière présélection. Ils ont choisi, dans la catégorie Agir, l'association nordiste Un enfant, un rêve, un avenir, qui crée des écoles en Inde. Et dans la catégorie Croire, l'association La Maison Marthe et Marie, présente dans 5 villes de France. C'est le hasard, mais ces deux projets dédiés à la petite enfance et à la maternité sont portés par des femmes très engagées et volontaires. C'est donc une joie de les faire davantage connaître grâce à ce prix.
Un enfant, un rêve, un avenir, qui est né en décembre 2019 dans le Nord, à Bondu. C'est une belle histoire, mais qui n'a pas fini de s'écrire, Véronique. Pourquoi ?
Alors, l'association est née de la volonté d'Emmanuel Trinceau et Sylvie Moquant, les Couards, de venir en aide à des orphelins de bidonville en Inde. Partis sur place en début d'année, elles ont été rapatriées en février en raison de la crise sanitaire. Mais elles ont continué à aider à distance les orphelinats pendant tout le confinement. Et de belles rencontres en belles rencontres, souvent inattendues, leur projet s'est développé et mobilise de nombreux bienfaiteurs. Elles espèrent donc construire 5 écoles. Les travaux de la première démarrent actuellement. Elles rêvent d'ouvrir des dispensaires et même de faire de la permaculture dans les bidonvilles. Et pour financer leurs actions, elles fabriquent avec beaucoup d'amour et beaucoup d'entrain des confitures qu'elles vendent sur les marchés et aux sorties de messe.
Et ça fonctionne, hein, Véronique, puisqu'elles ont déjà vendu 1700 pots depuis février. C'est plutôt courageux. Dans la catégorie Croire, l'association La Maison de Marthe et Marie suscite aussi votre enthousiasme, Véronique.
Oui, complètement. Nous devons ce reportage à une journaliste, Marine Samson, qui est allée rencontrer l'équipe de l'antenne parisienne. Et cette association accueille et accompagne des mamans isolées qu'une grossesse imprévue a jetées à la rue, et ce, quelle que soit leur religion. L'autre force du projet repose sur le fait que des jeunes femmes de leur âge, chrétiennes, vivent avec elles dans des colocations mises à leur disposition. Un peu dans l'esprit de ce que vit l'association Lazare avec les gens de la rue. Il se vit donc une fraternité très belle et cet hébergement est une alternative bienvenue face à la crise du logement dans les grandes villes pour ces femmes en galère. Et ce projet est aussi appelé à se développer.
Et ces associations recevront-elles l'un des quatre prix qui seront remis aux quatre lauréates le 12 novembre prochain, Véronique ?
Alors Melchior, patientez encore quelques semaines pour savoir quelles seront les heureuses lauréates du prix lecteur, puisque le jury auquel participe RCF se réunira le 7 octobre à Paris pour élire à son tour l'association qui jugera la plus solidaire et l'association la plus missionnaire de 2020.
Allez, fin du suspense en novembre. Merci beaucoup Véronique Durand de nous avoir fait vivre chaque étape de ce prix depuis janvier, avec ce souci de mettre en lumière des hommes et des femmes engagés pour un monde plus juste et fraternelle, ce qui fait totalement écho avec cette émission. Je pense donc j'agis. Véronique Durand, on peut réentendre cette chronique sur notre site rcf.fr. Vous êtes sur RCF, on va se retrouver dans un instant pour continuer cette émission consacrée au sport, le sport moteur du vivre ensemble pour les jeunes. Et je suis ravi car nous avons retrouvé notre deuxième invitée, c'est Samira Djouadi, la cofondatrice de l'association Sport à Vie. J'aurai une question pour vous, Samira. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieu et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. Contre-courant proposé par Véronique Macari.
À deux pas du port de Marseille, le centre d'urgence Saint-Jean-de-Dieu accueille les naufragés de la vie.
Mets des claquettes le temps que tu trouves une paire de chaussures.
Plongez avec nous dans ce reportage philosophique et contemporain.
Contre-courant, c'est ce mardi à 13h30, en partenariat avec la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Également avec nos invités jusqu'à 11h et en direct, Françoise Limanda, qui est membre du comité du Rhône pour la FSCCF. C'est super dur à dire, j'étais sûr que j'allais foncer dedans. Fédération sportive et culturelle de France. Et puis Samira Djouadi, qui est de retour avec nous, heureusement. Vous êtes la cofondatrice de l'association Sport à Vie. J'avais une remarque de Chantal, qui se demandait en quoi la compétition sportive dans un sport individuel peut-elle être un vecteur du vivre ensemble. C'est vrai que ce thème compétition, on a envie d'être le premier. Samira.
Oui, après, bien sûr, forcément, il y a toujours cette notion de compétition dans le domaine du sport. Hein. Quand on fait des matchs de foot, il y a aussi la notion de compétition. Après, c'est l'avantage du sport, c'est qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Hein. C'est le dépassement de soi, hein. C'est souvent ça. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, hein, toutes les fois où tu arrives au podium à la quatrième place, c'est aussi comment moi, demain, je me dépasse pour me dire, je vais aller plus loin pour justement avoir confiance en moi, pour justement aller toujours plus haut. Et ça, ce sont des choses, ce que je disais tout à l'heure, qu'on répercute dans le milieu professionnel. C'est ne jamais baisser les bras quand on est face à la difficulté. Comment je la dépasse? Comment je me remotive à l'intérieur de moi-même pour me dire, je vais aller chercher la bonne solution, je vais ne pas baisser les bras, même si j'ai subi l'échec, parce que souvent, quand on subit l'échec, on retombe, on a du mal à se relever. Et le sport, c'est ce qui forge, c'est ce qui te permet de te dire, on va tomber, mais on se relève à chaque fois, parce que on se donne une motivation. Voilà, c'est aussi ça. Et la notion de compétition, après, c'est chaque être humain qui la conçoit en fonction de son être, en fonction de ce qu'il recherche, etc. Voilà, donc, c'est ce qui va aussi stimuler pour aller toujours plus loin et réussir. Parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche tous, hein, c'est la réussite de nous-mêmes face à la difficulté, face aux challenges qui nous sont présentés tout au long de notre vie.
Allez, prenons le temps d'accueillir nos auditeurs qui nous contactent au 04 72 38 20 23 et qui font preuve de grande solidarité, tout comme Christian en direct de Vendée. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Melchior. J'ai un petit message. Alors en fait, c'est plus une réponse très amicale à une de vos auditrices qui est intervenue tout à l'heure et qui s'interroge par rapport à son petit-fils qui veut faire pour métier entraîneur.
C'était Thérèse, c'est ça, entraîneur de foot.
Entraîneur de foot. Donc, alors, je voudrais tranquilliser l'esprit de cette dame et aussi de vos auditrices et auditeurs. Par expérience personnelle, mais pas seulement, le sport est bien au-delà de ce qu'on appelle la compétition. Moi, je dirais que c'est un art de vivre, tout simplement, et surtout... ça vient d'être dit d'ailleurs précédemment à plusieurs reprises, c'est surtout une manière de combattre effectivement, quel que soit le sport, d'ailleurs la discipline, alors à n'importe quel niveau, il ne s'agit pas de se dépêcher à faire du sport ou aller très vite, non, ça c'est la partie compétition, mais le sport c'est bien au-delà de tout ça. Si vous voulez, on constate, d'ailleurs on le voit, moi je fais plutôt du cyclisme, mais on le voit, il y a une effervescence, surtout par les temps qui courent, on sait que les gens se sont donnés plus encore depuis quelques mois aux activités physiques, et on s'aperçoit surtout que c'est totalement bénéfique. C'est démontré par le monde médical en particulier, et puis par l'expérience qu'on peut avoir personnellement. Donc je voudrais simplement vous dire qu'il ne faut surtout pas, considérer forcément que le mot métier dans cette affaire, je répète, pour moi c'est avant tout un art de vivre et de bien vivre.
Merci beaucoup Christian d'être venu à l'antenne pour rebondir au témoignage il y a quelques instants de Thérèse, hein, qui habite à côté de Lille. Françoise Limanda, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vient de dire Christian, le sport un art de vivre ?
C'est sûr, c'est un art de vivre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut trouver du plaisir. Et justement, par le sport, l'objectif, c'est aussi de trouver du plaisir. Alors, on parle compétition, il y a souvent des débats, sport avec compétition, sport sans compétition. Il est vrai que la compétition à très haut niveau, pour des enfants, c'est sûrement pas toujours adéquate.
Oui.
Mais je pense que c'est aussi dans l'esprit des enfants d'être en compétition. Cet été, j'étais sur la plage et justement, je voyais des enfants qui essayaient de sauter le plus loin possible. Ils étaient en compétition l'un par rapport à l'autre. Ils n'étaient pas dans le milieu sportif. Personne leur avait demandé de le faire. Donc, je pense que c'est aussi...
Mais ils s'encourageaient, peut-être.
Ils s'encourageaient, tout à fait. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur un exemple qu'on avait il y a quelques années dans les gradins au moment des résultats. Il était arrivé qu'il y avait une équipe qui était toujours première. Et dans les gradins, on entendait des ou affreux. Mmh. Et du coup, on s'est vraiment battu là contre ces enfants qui étaient... En fait, à huer les vainqueurs. Et de nos jours, on ne retrouve plus ça du tout, en tout cas dans nos compétitions. Et c'est aussi par le fait que peut-être il y en a beaucoup qui vont dans des stages, qui se retrouvent d'une équipe à l'autre, qui apprennent à se connaître et qui du coup, bah, dans les compétitions, au lieu de se huer, et ben s'encouragent. Mmh. Donc c'est aussi vraiment très éducatif pour les enfants. Ouais.
Merci en tout cas, Christian, pour votre appel. On va enchaîner avec Elisabeth qui est en Savoie. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour. Je saisis l'occasion pour parler de notre prêtre qui était un champion. Donc, il a 75 ans bientôt et va bientôt prendre sa retraite. Mais c'est un prêtre qui continue de s'entraîner, de courir. C'est vraiment le prêtre sportif et très 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 mobile, et très dynamique. Et je voulais signaler que. Il a écrit déjà en 92 « La course de ma vie », où il raconte ses choix dans la vie. Il était champion, il aurait pu continuer dans le sport, mais il a choisi d'être prêtre tout en restant sportif. Alors, c'est René Pichon, qui était prêtre à Aix-les-Bains et qui est maintenant dans une paroisse près de Chambéry. Et il a écrit donc « La course de ma vie ». Et plus récemment, « Le sport et la foi » ou « La pastorale des champions ». Voilà. Et le troisième, je ne sais plus, il me semble qu'il a écrit encore récemment. Voilà.
Mais...
C'est un essai philosophique et théologique sur la pastorale. Voilà. Des champions.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Samira Djouadi, pour rebondir à ce que disait il y a quelques instants Françoise Limanda, mais aussi Christian en Vendée, l'important, c'est pas de gagner, mais c'est de participer.
C'est vraiment ça, hein, la devise. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. C'est de participer et chacun avec ses compétences, chacun avec ses valeurs, chacun avec ses moyens. Vraiment, c'est vraiment de participer et forcément, chacun y trouve son compte. Voilà, chacun vient chercher quelque chose et on doit être dans cette devise-là. Et ça, c'est important.
Je ne sais plus si vous étiez avec nous puisque vous nous avez quitté quelques minutes, Samira Djouadi, vous m'avez fait une petite frayeur. C'est pas grave. Françoise Limanda parlait du handicap et du sport comme manière de changer de regard. Ça, vous confirmez, Samira Djouadi, ça peut permettre de changer de regard sur la différence, sur les différences.
Ah, complètement. Alors, pour rebondir sur ça, on devait aller à Tokyo cet été. Hein. Bah, j'espère, je croise les doigts que les JO seront reportés l'année prochaine au Japon. Mm-hmm. Et justement, cette année, on avait fait un projet assez particulier où on avait créé des binômes d'enfants avec un handicap et d'autres non. Et justement, on avait travaillé toute l'année sur le regard de l'autre à travers le sport. Et c'est vraiment magique parce que bah, chacun peut apporter à l'autre, souvent ce qu'on disait aux enfants, ils n'ont pas choisi de naître comme ça, donc pourquoi se moquer ? Donc et là, c'est là où la discussion commence à arriver et on se rend compte que les deux ont à apporter à l'un et l'autre. Et ça, c'est la magie et effectivement, le sport peut résoudre pas mal de choses parce que forcément, et nous, on l'a constaté à travers les jeunes avec qui nous avons travaillé, c'est que souvent c'est de la méconnaissance, quoi. Quand on connaît pas, soit on a peur, soit on se moque, et forcément ça peut créer des conflits, etc. Et donc le sport le permet, quoi. Le sport permet justement de résoudre ce regard souvent négatif envers ses enfants.
Françoise Limanda, je vous vois dire oui de la tête.
Ah bah c'est sûr, oui, tout à fait. Ça, on apprend aussi beaucoup des personnes qui ont un handicap, parce que d'abord ils nous apprennent la tolérance. Enfin, c'est pas eux qui nous l'apprennent, mais disons qu'on est obligé d'être, enfin, de par leur attitude, d'avoir une grande tolérance. Et puis en plus, souvent, ce sont des gens qui ont un regard tellement ouvert sur autre chose que ça nous renvoie à nous-mêmes une image positive, quoi, vraiment.
Alors, une remarque intéressante d'Isabelle qui est à Lyon, qui nous dit: le sport et les filles collégiennes, c'est très important. Je parle des filles car j'ai eu 3 filles et j'ai pu en faire l'expérience. Le collège est un passage important vers la pleine adolescence. Les filles à cet âge deviennent souvent très réceptives et donc influençables aux artifices de la mode. Maquillage, vernis sur les mains et j'en passe. Alors, quel dommage, elles sont si biquettes naturellement. Et en cela, le sport les ramène à leur belle nature. Au sport, pas de chichi, pas d'artifice, on est naturel et tellement mieux et belle dans sa peau d'ado dont le corps, la silhouette est si difficile à appréhender car elle est en plein changement. Ben voilà un commentaire intéressant, un beau témoignage d'Isabelle. Vous confirmez, Françoise Limanda, pour les filles aussi.
Bah,
parce que c'est vrai qu'on pense au sport, on pense aux garçons, au foot, comme on entendait tout à l'heure Thérèse. Mais vous avez été en contact avec des filles également.
Ah bah moi, c'est essentiellement avec des filles. Et effectivement, ouais. Du coup, plus d'artifices.
Plus de chichi.
Plus de chichi. Hein. Tout le monde est les mains dans la magnésie. Tout le monde est dans la même tenue pour faire le sport. On va aux compétitions, on est avec la tenue de tout le monde. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui ramène tout le monde au même niveau.
Ouais. Et l'entraîneur aussi, ou l'entraîneuse, hein, évidemment, c'est quelqu'un qui est important pour ses filles, pour ses garçons. C'est quelqu'un qu'on admire, qui n'est pas un professeur, mais qui reste quand même quelqu'un qui nous aide à apprendre.
Je dirais que l'entraîneur fait 95%. De... Alors effectivement, il y a des jeunes qui sont plus ou moins doués, mais peu importe, on s'en fiche. Moi, j'entends souvent avant les compétitions, là, des entraîneurs qui rassemblent leur équipe, qui leur dit: je m'en fiche de votre classement. Ce que je veux, c'est que vous atteigniez l'objectif qui vous a été donné. Après, vous êtes première, tant mieux. Vous êtes 10e, mais vous avez fait ce que vous deviez faire. C'est formidable. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'il n'y a pas d'animosité entre les équipes. C'est justement les enfants, les mener au niveau où ils peuvent faire. Et dans une équipe, il y en a qui ont un niveau bien, bien supérieur à d'autres. Et c'est très, très important, justement, le rôle de l'entraîneur, là, au milieu, qui ne compare pas et qui donne des objectifs réalisables à chacun des enfants.
Samira Djouadi, l'un des risques au collège, au lycée, c'est l'effet de groupe, l'effet de mode, où il faut faire comme les autres, il faut s'habiller comme les autres, il faut parler comme les autres. Le sport ramène à la réalité.
Oui, il ramène à la réalité parce qu'il unifie tout le monde, en fait. C'est ça, la force du sport, c'est qu'il unifie tout le monde. Il n'y a plus d'appartenance à tel ou tel mode ou quoi que ce soit, ou à tel ou tel clan. Là, on est dans un club avec les mêmes règles, avec, vous parliez à l'instant de l'entraîneur que je disais tout à l'heure, quelqu'un avec qui on a un énorme respect. Moi, je l'ai vu cet été encore quand nous avons organisé les colos apprenantes à Val d'Isère. Nous avions eu beaucoup, beaucoup de jeunes ici de clubs de foot, et dont des clubs de Marseille. Et ben moi, j'ai été impressionnée par le respect que les jeunes avaient de leur entraîneur, qui n'était pas si âgé que ça en plus. Hein. C'est ça qui m'a beaucoup plus impressionnée. C'est qu'en fait, au début, quand j'ai vu les éducateurs, je me suis dit, oulala, ils sont presque aussi jeunes que les jeunes. Est-ce qu'ils vont pouvoir les tenir H24 voilà, dans un autre cadre qui n'est pas le club? Et en fait, ce respect s'exporte dans les sorties avec l'entraîneur, etc. Et je peux vous dire que vraiment, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce respect de l'entraîneur, de ce qu'il inculque à ses jeunes, etc. Donc, ça montre bien que ces valeurs, elles peuvent sortir du club et elles peuvent continuer à perdurer quoi qu'il arrive. Donc effectivement, ça unifie tout le monde. Et là, on n'a plus de problèmes de clan, on n'a plus de problèmes d'effet de mode, de celui qui peut se payer ou celui qui ne peut pas se payer, telle ou telle marque, etc. Donc c'est ça la force, hein, le sport, c'est très vertueux. Hein.
Allez, vous pouvez continuer de nous joindre ce matin, tout comme Isabelle il y a quelques instants par mail à direct@rcf.fr ou comme Christian ou même Elisabeth qui nous ont appelé au 04 72 38 20 23 pour nous parler du sport, moteur du vivre ensemble pour les jeunes ou même vecteur d'ailleurs, les mots sont proches quand même. On se retrouve dans un instant, toujours avec vos témoignages, avec nos deux invités, Françoise Limanda et Samira Djouadi, et on va écouter tout de suite une chanson qui a fait le buzz pendant le confinement, signé The Weeknd. The Weeknd sur RCF, Blinding Lights.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités en direct jusqu'à 11h, Françoise Limanda, qui est membre du comité du Rhône pour la FSCF, la Fédération Sportive et Culturelle de France, également juge national de gymnastique féminine et puis membre de l'association Le Cran à Tassin la demi-lune. Et puis Samira Djouadi, vous êtes toujours là, vous êtes la cofondatrice de l'association Sport à Vie. Très concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme projet au sein de Sport à Vie, Samira?
Alors, les projets que nous proposons depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est de sélectionner. Alors, on sélectionne des jeunes via plusieurs structures. Donc, on fédère d'autres structures avec nous, donc soit des associations, soit des professeurs de PS, via les collèges, etc. L'idée, c'est de leur dire, voilà, prochain événement international, c'est soit une Coupe du Monde, soit des Jeux Olympiques. Donc, on espère l'année prochaine qu'il y ait les JO à Tokyo. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, notre idée à nous, notre objectif, c'est de pouvoir emmener ces enfants aller vivre ces événements sportifs pour qu'ils puissent ressentir la magie du sport et surtout ce mélange de nationalités, de pays qui foisonnent lors de ces événements. C'est ça qu'on veut leur faire ressentir. Et donc, pour cela, en fait, on s'y prend un an à l'avance et on met à contribution ces enfants en leur disant, voilà, notre idée, c'est ça, ce qui va devenir la vôtre. Mais par contre, le projet aura l'identité que vous lui donnerez. C'est pas nous qui allons construire le projet, le contenu, etc. Nous allons vous guider. Par contre, on veut que vous soyez vraiment, vraiment acteurs de ce projet. Et là, on va mettre en place des ateliers auxquels ils vont se répartir. On aura un groupe qui va gérer la partie culturelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, à Tokyo ? Pendant 10 jours, ok, on va aller voir les événements sportifs, mais à un moment donné, il y a aussi du temps libre, des moments où il n'y a pas d'activité sportive, etc. Donc, qu'est-ce qu'on visite? Pourquoi on le visite? Qu'est-ce qui fait qu'on visite telle chose ou pas? Donc, ce qui nous permet de leur inculquer aussi de la culture. On leur apprend aussi la langue du pays. À chaque fois que nous allons dans un pays, on leur apprend la langue, ne serait-ce que pour dire bonjour, au revoir, interpeller les gens quand on cherche notre chemin, etc., pour qu'ils prennent conscience aussi de l'intégration lorsqu'on va dans un pays, on va pas à l'hôtel et au stade et après on rentre chez nous. Non, on essaye de s'intéresser à la culture parce que ça fait partie de l'ouverture. Il y a ceux qui vont participer à l'atelier d'écriture, audiovisuel, etc. parce que eux, la photo, sur place, ils vont devoir nous retranscrire tout ce qu'on va vivre à travers ces outils-là. De manière à ce que le soir, on fasse notre conférence de rédaction pour ramener un peu toutes les images que chaque groupe a vécues pendant la journée, etc., qui permet d'échanger, etc. On met un point d'honneur à chaque fois qu'on va dans un pays comme ça étranger, c'est de rencontrer l'ambassadeur de France pour expliquer à nos jeunes pourquoi il y a quelqu'un qui représente la France dans ce pays. Pour cela, d'abord, on leur demande de venir avec une tenue adéquate, parce que quand on rencontre l'ambassadeur, c'est comme si on rencontrait le président de la République. Donc, on vient avec une tenue, on vient pas en survêtement basket. Donc ça, c'est important. Et ensuite, nous, on demande, puisqu'on prépare le rendez-vous avec l'ambassadeur, d'abord qu'il nous explique son parcours. Comment on devient ambassadeur? Est-ce qu'il faut être héritier ou il y a des études pour
c'est,
ça?
C'est
etc.
très complet, hein. C'est voilà. très complet ce que
Exactement.
Vous proposez pour Sport à Vie. En tout cas, voilà, ouais, rendre les jeunes acteurs de leur éducation,
Exactement.
Cultiver leur vivre ensemble, éveiller leur conscience. Voilà des valeurs et des missions au sein de l'association Sport à Vie. Même question pour vous, hein, Françoise Limanda, la Fédération sportive et culturelle de France. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions?
Écoutez, le rôle de la Fédération sportive et culturelle de France, c'est déjà de permettre le vivre ensemble. Et ça, on tombe tout à fait dans le thème de votre émission. Parce qu'effectivement, ça va de 6 mois jusqu'à 100 et quelques années, puisqu'on est multi-activité et sportive et culturelle dans la Fédération. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. En plus, donc on a une vision humaniste et en fait chrétienne aussi de notre rôle, puisqu'en fait la Fédération sportive et culturelle de France est née des anciens patronages. Aujourd'hui notre rôle est justement de permettre ce vivre ensemble. Et je dirais à mon petit niveau ou à notre niveau, par exemple de la gym féminine, notre objectif, comme c'est par exemple l'objectif là pour je sais plus son nom de qu'on vient d'avoir là au téléphone.
Notre invité?
Oui.
Samira Djouali.
Samira, voilà. D'emmener les enfants pour voir autre chose. Nous, l'objectif, à notre niveau, ça peut être d'emmener nos jeunes à une compétition nationale où justement on va vivre quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion de connaître dans nos régions ou pas. Voilà. Et puis on a des belles valeurs de tolérance, d'amitié, d'ouverture. Et ça, on essaye tout au long de l'année dans nos compétitions, dans nos entraînements, de le mettre en place.
La tolérance, ouais. Samira Djoua a dit, ça vous parle, ça aussi, faire des jeunes tolérants envers les autres.
Ah, complètement. Ça fait partie du package qui est hyper important. Vraiment, c'est le respect. D'ailleurs, une des premières actions que nous menons au sein de Sport à Vie, c'est le respect de l'autre. C'est être tolérant. Et d'ailleurs, souvent dans les quartiers, malheureusement, les premiers conflits, c'est ça part d'un regard. Pourquoi il me regarde ? Quand on leur explique que toi et lui, vous avez des yeux pour vous regarder mutuellement, et que ça veut pas dire, en tout cas dans le dictionnaire, il n'est pas écrit qu'un regard veut dire une insulte. Donc quand on leur explique ça, qu'à un moment donné, il faut être tolérant, il faut être respectueux des uns et des autres, forcément, après, les choses se mettent en place. Mais effectivement, je dirais, le travail de la tolérance, du respect, sont des choses qui sont importantes. Souvent, on les met de côté parce que, on pense que, c'est pas quelque chose sur lequel on devrait insister. Mais si, parce que c'est ce qui va faire qu'en fait, les choses vont fonctionner par la suite. Donc, et la tolérance, elle est mutuelle pour tous, hein, que ce soit l'enfant vers l'adulte, mais l'adulte aussi vers l'enfant, bien entendu.
Françoise Limonda.
Oui, je voulais rajouter que notre fédération, la Fédération sportive et culturelle de France, est un projet éducatif qui est dans tous nos événements et dans toutes nos compétitions et dans tous nos entraînements et mises en jeu. Il y a 5 points, l'ouverture, le respect, l'autonomie, la solidarité et la responsabilité. Donc je crois que ça englobe bien tout ce dont on a parlé pendant cette émission sur notre projet éducatif.
Et c'est totalement complémentaire avec l'association Sport à Vie que nous a présenté Samira Djouadi pendant une heure. Mais écoutez, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Peut-être un petit conseil pour les parents, pour les grands-parents ou pour les jeunes qui voudraient se mettre au sport ou mettre leurs enfants au sport. C'est une bonne idée, il faut les encourager.
Non seulement il faut les encourager, mais c'est vraiment indispensable. Et surtout, je recommanderais aux parents et aux grands-parents de ne jamais punir les enfants, de les priver de sport. Parce que souvent, on entend des parents qui enlèvent leurs enfants du sport parce qu'ils n'ont pas d'assez bonnes notes à l'école. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée, non. Samira Djouadi ?
Complètement, mais c'est vraiment un scandale même.
Oui.
Je pense que les personnes qui punissent leurs enfants d'activités sportives n'ont rien compris. Parce que, au contraire, c'est ce qui va apaiser l'enfant, c'est ce qui va lui permettre, peut-être de réfléchir, etc. Donc, au contraire, puis le sport, c'est l'hygiène de vie, quoi. Donc, il ne faut pas que ça soit égal à une punition si jamais l'enfant a fauté ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, il faut encourager les parents à permettre à leurs enfants de faire des activités sportives parce que tout le monde peut récupérer des bienfaits du sport, de l'épanouissement physiquement aussi, des gamins qui changent quand ils font de la pratique sportive.
Oui.
Et par contre, moi je mets un holà sur les parents qui sont complètement barjots alors c'est souvent dans le football ça, par contre on voit ça. Qui vraiment ont l'impression qu'ils vont tous avoir des Mbappé chez eux, qui parfois sont insultants sur les terrains de foot. Donc là, il y a par contre une grande éducation à faire.
Pour les parents aussi. Merci.
Ah ouais.
Merci beaucoup, Samira Djouadi. C'était un plaisir, comme d'habitude. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Sport à Vie, à retrouver sur sportavie.net. Françoise Limonda, grand merci également.
Merci à vous
d'avoir
aussi
participé à cette émission. C'est avec plaisir, surtout que je vous ai appelé hier à 21h pour être transparent. Et merci vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de participer. Vous êtes membre du comité du Rhône pour la Fédération sportive et culturelle de France. On peut retrouver plus d'informations sur le site de la fédération, je n'ai plus l'adresse, fscf.asso.fr. Merci à Pascal à la réalisation, à Catherine au standard et à demain 9h-11h. Bye bye.